Alors, le cinéma mondial, on peut dire, sans flagornerie, il y a eu avant Godard et après Godard, un peu comme il y a eu avant Orson Welles et après Orson Welles, vous êtes d'accord là-dessus?
Non.
Bonjour et bienvenue sur le troisième lieu pour la fameuse émission Jean-Luc. Alors aujourd'hui, vous allez pouvoir fermer les yeux, imaginer le popcorn croustillant à côté de vous, la personne trop grande juste en face et les deux grands-mères qui discutent juste derrière, puisque nous vous emmenons au cinéma. Et pour vous accompagner aujourd'hui, j'ai à ma gauche Louise. Bonjour Louise.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Très bien.
Ça va très bien ?
Oui.
Et à ta toute autre gauche, si nous suivons ce sens rotatif, j'ai Cléa. Bonjour Cléa.
Salut tout le monde.
Comment vas-tu Cléa ? Tu as passé une bonne semaine ?
Bah, elle vient de commencer, mais plutôt pas mal.
Et juste encore à sa gauche, juste devant moi, nous avons Théo qui apparemment sera le meilleur aujourd'hui puisqu'il a écrit quelque chose, une chronique, chose que nous n'avons pas fait depuis bien longtemps. Comment ça va Théo ?
Salut à toutes et à tous, ça va très bien.
Et pour finir ce tour de table à la technique, le magnifique, le grand, le splendide, le talentueux, Corentin, bien sûr.
Bonsoir.
Il est là avec sa petite barbe rousse. Heureux de présenter, de faire la technique de cette émission, Corentin.
Ouais, et je crois que ça fait aussi longtemps que j'avais pas eu, enfin ça fait très longtemps que j'ai pas eu autant de compliments en fait.
Ah, ben ça c'est pour le mois, donc prends-en et peut-être que le mois prochain je reviendrai avec d'autres adjectifs. Donc on va commencer tout de suite cette émission en parlant des sorties de la semaine et de ce qui va bien se passer sur nos écrans noirs demain. Et on commence tout de suite avec au hasard j'ai décidé Cléa. Voilà. Alors, de quoi tu vas nous parler Cléa ?
Alors moi je vais vous parler du film qui parle de la tuerie qui s'est passée en Norvège le 22 juillet. Donc le film s'appelle Utøya 22 juillet. Pas très original mais bon. Il a été réalisé par Erik Poppe, qui est un réalisateur du coup, bah, norvégien. Et les acteurs qui sont dedans, ils ne sont pas connus. Et je ne prononcerai pas leur nom et leur prénom, parce qu'ils sont super compliqués à prononcer. Donc, ce film va nous faire vivre, en fait, du coup, comme je vous l'ai dit, la tuerie qui a eu lieu dans un camp d'été organisé par la Ligue des jeunes travaillistes, où un homme de 32 ans a ouvert le feu et a tué plus de 69 personnes, donc tous des jeunes malheureusement. Donc pendant une heure et demie, le film il va suivre le personnage de Kara, qui est l'actrice principale.
Oh, y a une petite musique. Oh. Ça c'est ta blague préférée vraiment, Corentin,
oui,
on peut la retrouver.
Donc je ne sais même plus où j'en étais du coup. Ah oui, qui va suivre le personnage principal de Kara qui prend soin de sa jeune sœur mais qui va se retrouver du coup à la rechercher dès les premiers coups de feu. Et c'est assez intéressant parce que j'ai vu que le réalisateur il s'était basé sur les témoignages des survivants et des proches des victimes pour réaliser son film. Et il va aussi tourner entièrement une séquence de 72 minutes, qui est le temps exact de la durée de la tuerie. Voilà, je voulais vous faire passer cette petite information qui est assez intéressante.
Sympa,
pleine
ça,
de
ça,
joie, je dirais.
Non mais ça va, c'est intéressant de faire les trucs de 72 minutes pour retranscrire.
Ouais, il s'est vraiment basé du côté des jeunes et du coup, ils ont...
Et on sait pourquoi cette tuerie ? Il y a une raison particulière ou...
Il y a une autre, c'est un attentat qui a eu lieu à deux endroits aussi, à Utøya et à Oslo, où il y a eu 8 morts à Oslo, je sais plus vraiment la raison. Mais
il a fait exploser une bombe dans le Parlement ou
dans un lieu
administratif. Ouais.
D'accord, et c'était on n'a pas plus d'infos sur les revendications.
Ah non,
mais...
c'était un fou furieux, c'est quoi le terme technique ? Quand c'est un terrorisme et que c'est pas religieux, ça c'est un... Un dérangé mental,
oui,
ils appellent ça.
Oui.
Et du coup, ouais, il était un peu trop nourri de fanatisme catholique et il détestait tout le monde. Et il était dans les trucs néo-nazis et il a décidé de tuer des gens.
C'est un peu un acte terroriste, du coup.
Voilà, c'est Anders Breivik, non, il s'appelait, je crois.
Ouais, je crois que c'est ça.
C'est lui.
Mais justement, il a décidé de refaire un film sur cette tuerie parce qu'il trouve que qu'elle est vite oubliée par la population. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'il voulait réaliser ce film, pour rappeler aux gens qu'il y avait eu cette tuerie et que c'est assez horrible quand même.
Et c'est où exactement c'est quoi le nom du... Ça se passe où? Ah,
En Norvège.
D'accord.
Sur Utøya, c'est une petite île. Mais le film, il est aussi... Enfin, il y a aussi un film là-dessus sur Netflix. Si vous voulez aller le voir.
C'est ce que je me disais, j'avais l'impression d'en avoir déjà entendu parler.
Voilà.
D'accord, bah très bien. Merci Cléa.
De rien.
Bon, qui veut présenter son film après? Vous avez l'air vraiment enchanté. Théo, tu me souris.
Je me lance. Allez.
Vas-y.
Allez. Alors moi, je veux parler d'un film documentaire qui s'appelle Rêver sous le capitalisme, qui sort en salle demain, le 12 décembre 2018, mais qui est déjà disponible sur les internets, parce que c'est un film réalisé, enfin produit par Arte et la RTBF, et Arte nous l'a rendu disponible sur ses antennes pendant quelques jours, voire deux semaines maximum, je suppose.
RTBF, c'est la... C'est,
Radio-télévision belge francophone. Ouais. Francophone, pas française, attention. Tu vas avoir des soucis. Non, c'est... Et donc, c'est un film documentaire réalisé par Sophie Bruno. Sophie Bruno, je ne cache pas, je ne la connaissais pas avant de m'y intéresser. Mais donc, elle se forge son inspiration de son métier de base, qui est être sociologue. Et anthropologue, ça dépend des sources. Elle était diplômée de l'Université Libre de Belgique. Et donc elle s'est associée avec Marc-Antoine Roudil, un cinéaste néerlandais, du coup, avec qui elle a commencé à réaliser différents courts-métrages et longs-métrages documentaires, notamment un premier qui partait du monde de pêcheurs à cheval. Voilà. C'était un sujet particulier. Elle en a fait une petite dizaine de films documentaires. Et là, elle nous propose ce long métrage de 63 minutes, exactement, qui raconte ce que fait le travail à l'esprit des gens. On parle beaucoup des tendinites qu'on peut attraper en faisant le même métier répétitif à l'usine. On peut se faire mal au dos, avoir beaucoup de problèmes physiques, mais il y a aussi un impact sur le subconscient. Et en fait, ils vont s'intéresser aux rêves des travailleurs sociaux, les gens qui travaillent aux caisses des magasins, hôtesses de caisse, comme on dit, des gens qui font des métiers très répétitifs dans le tertiaire, donc dans les bureaux, des gens qui travaillent sur les chantiers, etc. Et ils vont raconter leurs films, leurs rêves, pardon, qui leur procurent des émotions souvent angoissantes, apparemment. Tout ça réalisé avec des images, des plans fixes, des zooms sur un peu inversés, qui nous donnent un peu le tournis, mais qui donnent une impression de grandeur et de machines, en fait. Vraiment, ça montre beaucoup les machines. Donc dans la bande-annonce, là, j'ai vu des images de trains qui circulent, des gros immeubles de bureaux filmés à la moitié de l'immeuble. Du coup, on ne sait pas trop à quel étage on est, etc. Ça nous perd beaucoup. Et notamment, une image qui finit à la fin de la bande-annonce, où une sortie de bureau qui semble être un gros hommage à la sortie de l'usine des Frères Lumière, le premier film. Et ça a l'air assez poignant. Les témoignages ont l'air très très vrais, et c'est ça qui fait un peu froid dans le dos, et je vous recommande fortement. Donc en plus, vous pouvez garder tout l'argent dans votre poche, parce que c'est disponible en ce moment sur Arte, et on le dit pas très fort, mais en général, quand c'est disponible sur Arte, c'est très vite disponible sur YouTube dans la suite. Voilà. Mais allez au cinéma, payez.
Mais... un bon plan gratuit de Théo.
Voilà.
Petit tips. Mais du coup, j'ai pas compris, ils racontent leurs rêves
qui sont en rapport avec leur métier. Par oui, exemple, dans la bande-annonce, quelqu'un qui dit je voyais quelqu'un qui semblait avoir la forme de mon patron, mais qui surtout représentait mon patron, qui avait les yeux blancs, qui d'un coup commence à avoir les yeux bleus, et je ne voyais plus que son regard, et ça a l'air assez terrifiant, en fait, de faire ce genre de rêve.
Ça vous est jamais arrivé?
Non, pas encore.
Très bien.
Avec mon patron, non, pas encore.
Moi, mon patron à Franprix, ça va, il est cool, big up Julien.
T'as jamais rêvé de lui qui venait derrière toi, ta caisse, et tapait parce que t'allais pas assez vite?
Non, franchement, j'ai la chance d'avoir un taf, un peu nul dans ce que je fais, mais avec une très bonne équipe. Donc, ça va. Voilà.
J'ai déjà rêvé, je travaille à la Part-Dieu, et j'ai déjà rêvé qu'il y avait plein de clients qui arrivaient, qu'on essayait de fermer les grilles, et que du coup, les clients, ils poussaient les grilles comme les zombies, tu sais, dans les films de zombies, et que les clients, ils voulaient absolument manger, et du coup, ils ouvraient les grilles et cassaient tout pour manger, parce que, alors qu'on leur disait qu'il n'y avait plus rien, et ils voulaient absolument manger.
C'est marrant, justement, dans un des témoignages, qu'il y a quelqu'un qui raconte qu'il voit ses collègues se transformer en zombies, et l'aliénation du travail, elle a l'air assez présente.
Bah, de la consommation aussi, voilà. Si je puis me permettre.
et bah voilà, tu pourras être la 13e personne qui témoigne dans ce film. Tu pourras rajouter un petit peu de durée.
Eh bien, merci beaucoup Théo pour cette petite découverte. Et puis, on peut tout de suite passer à Louise.
Oui, bonjour. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de Heureux comme Lazaro, qui est sorti le 7 novembre. Donc, c'est pas un film de la semaine, mais il est toujours en salle. Donc, c'est un film italien de Alice Rohrwacher. Bon, alors, franchement, niveau prononciation, je pense que je suis pas dans le top. Ça a été le prix du scénario à Cannes. Donc, c'est un film qui traite d'un jeune paysan d'une grande bonté dans un hameau sous le règne de la marquise Alfonsina de Luna. Donc, c'est au fin fond de l'Italie, vers un village, on sait pas exactement où. Et en fait, il cultive des plants de tabac. Donc, la marquise, c'est la reine du tabac. Et ça se base beaucoup sur l'exploitation des paysans à cette époque. Et donc, il y a un abus de la bonté de Lazaro, qui est très jeune et qui se fait exploiter pas de main morte par la marquise. Et donc, durant l'été, il va se lier d'amitié petit à petit avec un jeune garçon qui est donc le fils, en fait, de la marquise. Et ensuite, il va tomber d'une falaise et il va tomber dans le coma. Et il va se réveiller 20 ans plus tard, sans rides, normal. Donc il y a un côté assez surréaliste, qui fait penser un peu au film de Pasolini. Et voilà, et donc tous les paysans, ils sont vieillis et tout, et lui, il reste tel qu'il est. Donc c'est un film qui a l'air assez intéressant et très, très poétique, en fait. Et vu la bande-annonce, il y a une esthétique qui a l'air super belle, de super belles couleurs, et franchement, le film a l'air vraiment, vraiment bien.
Du coup, tu ne l'as pas vu ?
Non, je ne l'ai pas vu.
Mais il est encore en salle ?
Ouais, il est encore en salle, ouais.
Personne autour de la table n'a eu l'occasion de le voir ?
Du tout. Mais maintenant, on fait une très bonne critique là-dessus, donc c'est dommage, elle n'est pas là.
Et je suis très triste parce que... Enfin, très triste, oui et non, mais je pensais totalement l'avoir loupé, et en fait, non. Donc maintenant, trouvons un cinéma qui le diffuse encore.
Je crois que c'est dans les petites salles, genre le cinéma Lumière ou genre le Saint-Denis ou les trucs comme ça.
Ouais, je pense aussi. Mais j'en ai entendu beaucoup de bien, en tout cas. Il m'en a été rapporté énormément de bien.
S'il a eu des prix ou...
Ouais, il a eu le prix du scénario à Cannes. Et après, je sais pas exactement. Je crois que c'est quelques autres prix peut-être.
Oui, il a eu des petits prix un peu partout. Il a eu des petits prix un petit peu partout. Pour l'acteur aussi, il me semble. Je sais plus qui c'est l'acteur. C'est un petit jeune encore peu connu. Et je me demande s'il n'a pas eu des prix d'espoir masculin ou de...
De second rôle,
genre... ouais. De... non, pas de second rôle, du coup.
Ah, d'espoir,
non,
ouais.
Premier, il a le premier rôle.
Ah, pardon.
Ah, il a le prix spécial du jury au Festival International du Film de Catalogne. Voilà. Et ça, je le sors totalement de ma mémoire parce que j'ai beaucoup étudié le film avant de
venir. Il faut savoir que Lilia est notre Wikipédia, comme on dit.
Mais bien sûr, si vous avez un souci, appelez-moi. Vraiment, j'ai toutes les infos en tête. Bon, du coup, on termine avec mon petit film et ce de quoi je veux parler, vu qu'on m'a lâchement
Lilia.
Volé. Les rêves et le capitalisme. Du coup, je vais par vengeance parler du capitalisme pur et dur, puisque je vais parler du retour de Mary Poppins. Wouh, petite paillette, étoile, musique américaine qui est trop cool. Alors, je sais pas si pour vous autour de la salle vous êtes fan de Mary Poppins. Moi, ça a bercé absolument l'intégralité de mon enfance. Donc, je ne sais pas si je suis toute seule et si je vais totalement faire un flop en parlant de Mary Poppins.
C'est une honte, mais je l'ai pas encore vu. Ni le premier, ni rien. Donc.
Moi, je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé.
Ouais, j'ai cassé la bande de la cassette, je pense, à force de le voir.
Ouais, moi, ça m'a pas marqué.
Théo. Ah ouais ? Alors, ouais. Moi, je l'ai regardé en long, en large, en travers. La preuve, je peux dire supercalifragilisticexpialidocious, sans bégayer. Donc, c'est une preuve que... c'est une preuve que, quand même, je l'ai bien regardé. Et du coup, voulant faire soit de l'argent ou alors pour ravir nos petits yeux enfantins, Disney a décidé de sortir Le Retour de Mary Poppins. Donc, ce n'est pas un remake de Mary Poppins, mais c'est bien Mary Poppins qui revient 20 ans plus tard dans la famille des Banks, puisque Michael Banks, le petit garçon, a 3 enfants, il perd sa femme, et du coup il est aidé par sa nourrice, et Mary Poppins revient pour aider Michael Banks à se sortir de cette impasse et de ce deuil, et de l'aider avec ses enfants. Donc d'après la bande-annonce, on retrouve de la magie, des fleurs qui volent, et bien sûr des dessins animés et des images d'animation et des prises de vue réelles mélangées, ce qui fait quand même tout le charme de Mary Poppins. Après, j'ai un peu peur qu'ils reprennent un petit peu tout ce qui a marché pour essayer d'en refaire une autre histoire, mais qu'en fait, on est exactement la même chose, mais avec des effets spéciaux un peu plus réalistes, du coup, on perd du charme. Beaucoup trop de questions par rapport à ce film.
Déjà, est-ce que les images d'animation, ils les ont faites en animation en 2D ou en 3D ?
C'est numérique, non ? C'est bien 3D, non ?
C'est bien 3D, ouais. J'ai pas vu la bande-annonce.
De ce que j'ai vu de la bande-annonce, ça ressemble beaucoup, beaucoup au premier Mary Poppins. Donc il me semble que c'est du 2D.
Ok, bah c'est pas plus mal parce que récemment c'était les remakes de Tarzan ou du Livre de la Jungle.
Ah avec oui, avec les animaux. Non, non, de ce que j'ai vu, c'est vraiment. Ça a l'air dans l'univers de garder avec les pingouins et les chevaux.
Bah c'est certainement pas pour faire de l'argent, alors ça a l'air vraiment dénué de.
Ah oui, ah bah très certainement.
C'est alors ça, je pense.
Pardon ?
C'est la même actrice qui joue ?
Ah bah non, l'actrice ouais. Maintenant, elle doit avoir... le premier Mary Poppins, il est sorti en 63, donc je pense qu'elle est plutôt jeune. Non, c'est Emily Blunt.
Ouais.
Je sais pas si vous voyez qui est cette jeune demoiselle.
Elle joue dans Premier Contact.
Qui a joué dans... Et elle a pas que joué dans Premier Contact, ouais, elle a joué dans... Tout à l'heure, je suis allée voir sa filmographie, en plus, pour me dire, pour un petit peu me renseigner, me dire, mais dans quoi a-t-elle joué ? Et il me semble qu'elle a joué dans... Ah oui, dans Le Diable s'habille en Prada, c'est ça où je me suis dit, ah, mais c'est elle. Oui, bah oui, une filmographie très intéressante pour moi, en tout cas. Mais c'est elle dans Le Diable s'habille en Prada. Et du coup, voilà, c'est Emily Blunt, et donc Mary Poppins, toujours aussi jeune, et c'est une blague dans la bande-annonce. Vous n'avez pas pris une ride ? Ça ne se fait pas de parler de l'âge d'une demoiselle. Donc voilà, il y a toujours le...
le parapluie.
Non, oui, il y a le parapluie et il y a le... dont elle tombe un petit peu amoureuse dans le premier, qui avec les cheminées, le...
Le ramoneur. J'ai oublié,
le ramoneur. Ouh, compliqué. On sent que c'est un début de semaine. y a toujours... Enfin, il y a les personnages, en tout cas, type du premier Mary Poppins qui apparaissent dans la bande-annonce. Donc, je ne sais pas si c'est pour faire plaisir aux fans ou s'il y aura un vrai propos et une volonté vraiment de refaire un Mary Poppins qui change un petit peu derrière. Seul l'avenir nous le dira, il me semble. Bon, c'est tout ? On a fini avec les sorties, Corentin ? Tu n'as pas de sortie à nous présenter ? Toi, tu t'occupes juste du jeu ?
Non, j'ai un petit bail pour le jeu cette fois, donc...
Donc oui, c'est vrai, ça a demandé beaucoup de préparation, je te laisse te reposer. Et on va tout de suite parler des films qu'on a vus ou pas vus, non, il faut mieux qu'on les ait vus, qu'on a vus, qu'on a aimés ou pas aimés cette semaine. Et on va commencer avec Louise.
Très bien.
Louise,
alors,
dis-nous.
Moi, je vais vous présenter un film que j'ai vu la semaine dernière. C'est un vieux film que j'ai emprunté à la BU de Bron, RPZ. Ça s'appelle « The State of Union ». Je ne sais pas si je prononce bien, donc un peu l'état des choses, il me semble que ça veut dire ça. C'est sorti en 1947, donc c'est un film en noir et blanc de Frank Capra. Et donc, pour faire vite, c'est un homme humaniste et intègre qui est assez populaire dans son milieu, qui passe dans le Times, qui est vraiment assez connu, et qui va peu à peu se faire manipuler par des politiciens républicains, enfin ça se passe en Amérique bien sûr, pour devenir candidat à la présidence. Donc, parce que les républicains n'ont plus beaucoup de succès. Donc il est connu pour des discours grandioses, mais c'est pas un politicien né. Et donc ces deux politiciens, donc c'est un homme et une femme, qui vont le traîner petit à petit dans une logique beaucoup moins intègre et lui faire perdre son humanité. Donc il va accepter petit à petit de s'installer dans une logique beaucoup plus de profit, en fait. Et il va décider donc de se présenter à la présidence et de s'installer à la Maison Blanche en tant que candidat avec sa femme. Et donc le film, ouais, il dépeint la progressive déshumanisation politique derrière les manipulations intérieures, en fait. Il va commencer à changer de discours, se tourner plus du tout dans la même logique d'humanité qu'il avait. Il soutenait les ouvriers, etc. Donc là, il y a juste sa femme, en fait, qui représente une forme de résistance à ce vicieux lavage de cerveau et qui va réussir, en fait, à le sortir de cet encloisonnement. Donc il y a une ambiance assez froide, mais il y a aussi beaucoup de touches d'humour, donc c'est vachement intéressant. Et ça montre à quel point un homme peut perdre vite son intégrité dans le jeu perfide de la politique. Et donc il y a une scène intéressante, c'est la dernière scène, bon je spoil du coup. Hein. C'est une émission de radio mondiale, donc dans sa propre maison, où il y a toute sa famille, il y a énormément de monde qui est rassemblé, tous les politiciens du coin. Et donc il est censé faire un discours qu'on a totalement modifié, enfin qui n'est plus du tout son avis à lui en fait. Et sa femme en fait, pour dire bref, se bourre la gueule. parce qu'elle n'est pas du tout d'accord avec ce qui se passe. Et du coup, elle se ridiculise en insultant son mari. Et son mari, il se rend compte de l'ampleur de la situation et qui retire sa candidature en public. Et il dévoile derrière les caméras et les micros la grande machination politique dont il a été victime et coupable. Voilà.
Très bien. Ça se passe quand, ça? Je l'ai pas
saisi. En 47. Enfin, après, je pense que c'est
après
le...
guerre.
Voilà, c'est ça.
Et le film, il date de...
Voilà, de 47.
De 47, et ça
exactement.
Se passe en 47.
Après, c'est fictif. Hein.
Oui, c'est pas inspiré d'une histoire. Ouais, ça a été inventé. Et ben, très, très bien. Ça m'a presque donné envie de me replonger dans des vieux films. Pourtant, c'est pas spécialement mon truc, mais...
Ouais, c'est intéressant parce qu'ils font plus trop des sujets comme ça. Ils n'osent plus trop aborder des trucs politiques comme ça maintenant.
Tu trouves?
Bah, je sais pas, c'est plus tendu. Enfin, ouais, si, il y a eu des trucs.
Bah,
avec,
plus au niveau des séries.
De
peut-être pas au film, ouais. Mais dans les séries, j'ai l'impression.
Baron Noir, c'est vrai. Ouais, Baron Noir. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est parti sur autre chose. Ouais.
Bah, après, c'est. Pardon. je casse le studio. Non, après, j'ai plus l'impression que c'est plutôt parce que tout ce qui est un petit peu politique, trahison. Toute machination derrière la politique, c'est un peu un fantasme et c'est une demande du spectateur de voir ça. Et. D'où la différence entre est-ce qu'on offre ça au spectateur parce que lui il est régi par un désir qu'on lui donne des histoires de trahison et tout, ou est-ce qu'on a une vraie volonté de dénoncer derrière?
Non,
là ça a plus l'air d'être dans une volonté de dénoncer, mais c'est vrai qu'à House of Cards on peut facile, enfin
c'est pas très dénonciateur,
ouais,
non c'est pas,
oui,
pas
c'est plus engagé, donner
ouais.
Un peu du pain au...
Ouais.
Non,
non, aussi c'est un peu ça.
Dur,
ouais.
C'est un petit peu ça. Hein.
Bah, quand tu vois qu'il tweet pour réagir aux politiques des différents pays, si ça se limite à ça, c'est pas dingue. Alors que pour le coup, ouais, faire un film après la guerre en mode tension politique tous les jours sur justement la politique et le ridicule des politiques, c'est engagé.
Plutôt intéressant.
On répète le nom du truc.
On répète le nom du film.
Ah oui, c'est
tu l'as dit en anglais. Alors
oui.
Là, c'est
The State of the Union, mais en fait, enfin, c'est tous les le film, il se trouve que en anglais le titre. Donc,
d'accord.
The State of
ce qui veut dire en français, Corentin.
À peu près, je crois.
À peu près l'état des choses.
Ouais, un truc comme ouais. Ça.
Je le savais. Pas tout à fait. Très bien, bien, merci beaucoup, Louise. On passe à toi, Cléa. Dis-nous.
Oui, alors moi je vais vous présenter un film que j'ai vu aussi la semaine dernière parce que j'avais un travail à faire en iconologie, je devais présenter un film, du coup j'ai choisi de présenter juste La fin du monde de Xavier Dolan. C'est un film
j'en
que...
J'en ai des choses à dire. Vas-y.
Donc pour faire un résumé bref, c'est l'acteur principal, donc Louis, qui revient dans son village natal après 12 ans d'absence pour annoncer sa mort prochaine. En effet, il est atteint du sida et il va en fait montrer les retrouvailles dans le cercle familial. Et ça va pas vraiment bien se passer, ça va vraiment être un moment de gêne pour Louis, il y a toutes les névroses familiales qui vont revenir, les jalousies, les frustrations, mais aussi les plus, comment dire, je ne sais plus vraiment ce que je voulais dire, j'ai perdu mon mot. Enfin, ouais, c'est un huis clos, en fait, familial, et c'est vraiment intéressant parce que, pareil, je ne pourrais pas spoiler la fin du film, mais il y a vraiment tout au long du film des compas, enfin des... Comment on pourrait dire? C'est pas des métaphores, mais il y a vraiment la mort qui est présente et c'est vraiment intéressant de voir comment il est tourné et fait.
Ouais, c'est vrai que celui-là, je l'avais vu et t'as vraiment une tension pendant tout le film, en mode... Ils n'en parlent jamais explicitement de la mort, mais...
Ouais.
Mais tu sais qu'elle est là et que tous les personnages ils vont se la prendre directement dans la face.
C'est un crescendo en fait, à chaque fois. Et ouais.
J'ai une petite mention sur ce film parce que dans les premières minutes, t'as un passage de montage.
Ouais.
Je sais pas si tu t'en rappelles.
Peut-être.
Avec l'horloge notamment.
Oui, l'horloge.
Ouais, ouais. C'est un passage de montage parfait.
C'est vers la fin du film ça.
Bah, en fait,
avec l'horloge.
Il arrive au tout début et
ouais.
Il y a exactement le même à la fin.
Ouais, c'est une joke. Je m'en souviens.
Si je peux apporter une petite précision sur le film, et là ça m'aide de venir un peu du monde du théâtre. À la base, c'est une pièce qui a été écrite par notre très cher Jean-Luc
Lagarce.
Tout est lié. Qui a été écrite par notre très cher Jean-Luc et qui est une pièce totalement autobiographique, hein, puisqu'il est mort du sida et il est revenu voir sa famille quand c'était la fin de sa vie et il est revenu. Et d'ailleurs, c'est un auteur dans Juste la fin du monde. C'est un auteur, parce que Jean-Luc Lagarce était un auteur. Et sur le film, que j'ai trouvé très moyen, parce que, déjà, je ne suis pas une grande fan de Jean-Luc Lagarce, et il a gardé, dans sa manière d'écrire et d'apporter les mots, et pour le coup, il a essayé de garder à l'image un peu cette manière de parler très répétitive, revenir sur ses mots, puis continuer... De Jean-Luc, et je trouve qu'il l'a très bien, plutôt bien retranscrit. Après, je sais pas vous, je me rappelle très bien l'avoir vu en avant-première, être arrivée en retard, et du coup j'étais tout devant, en plein milieu, et il y avait une quantité de gros plans et de blanc et de peau à l'écran, que ça m'en a donné la nausée. Genre, j'ai trouvé, parce que j'étais très près de l'écran, et c'était très blanc et très, tout était très filmé de très près, ça m'a...
On
j'ai vraiment eu du mal
fait,
à rentrer dedans parce que oui peut-être étouffé, et quelque part je me dis qu'avec son génie c'est ce qu'il peut-être qu'il a recherché à faire je l'espère, mais c'est vrai que je me souviens avoir pour le coup à ne pas du tout réussir à rentrer dedans, parce que les mots ne me touchaient pas, que je connaissais déjà la pièce, j'étais pas surprise, je savais ce que j'allais voir et ce à quoi je m'attendais, et en plus c'est cette volonté de tout filmer en très très gros plan, ça m'a j'ai pas passé un très bon moment, quoi. Je suis ressortie, j'étais contente de voir la lumière du jour. Enfin, la lumière de la lune, en l'occurrence.
Mais il y avait la pièce aussi au Célestin l'année dernière, de Jean-Luc Lagarce. C'était Le Pays Lointain, ça s'appelait. C'était exactement ça, genre.
Oui.
C'était sur 4 heures, je crois. Mais c'était pas mal, mais c'était pas exceptionnel. Hein. Enfin.
Alors oui. Bon, Jean-Luc Lagarce, c'est encore une. C'est... On pourrait en dire beaucoup de choses aussi. C'est... On l'étudie beaucoup en théâtre et c'est un petit peu. Peu surcoté, voilà, je l'ai dit. Je vais me faire lyncher, mais non, c'est moi. Enfin bon, personnellement, j'ai beaucoup de mal avec son écriture, mais voilà, ça c'est un avis totalement subjectif. Eh bien, merci beaucoup, Cléa.
Oui.
Et on m'a dit qu'il fallait pas que je passe à Théo tout de suite, qu'il fallait garder le meilleur pour la fin. Donc je vais parler de mon film avant toi, Théo, si tu me le permets.
Je t'autorise.
Et je vais parler...
Affreux. Qu'est-ce que vous obligez à dire ?
Tu as le droit. Je vais parler de La Ballade de Buster Scruggs.
J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus.
Ah, yes. Parce que je suis très mitigée aussi, donc on va pouvoir en parler, qui est le dernier film des frères Coen qui est sorti sur Netflix il n'y a pas si longtemps que ça, le mois dernier à peu près, dans le mois, non ?
Ouais, je pense.
Il n'y a pas très longtemps. On peut y retrouver... James Franco, Tom Waits, Liam Neeson, ou encore Harry Melling. Qui est Harry Melling ?
Je sais pas. Qui est Harry Melling, Lilia ?
C'est l'acteur qui joue Dudley dans Harry Potter.
Oh,
sérieux ?
Et je savais bien qu'en le voyant dans le film, je dis mais je le connais lui. Et il se trouve que dans le film il n'a pas de bras et pas de jambes, donc c'est bon, bref, beaucoup
qu'est-ce
de
que
questions.
C'est ce film,
en fait. Donc en fait c'est très.
Tu avec moi. Hein,
ça t'a pas sauté aux yeux quand il est apparu à l'image que tu le connaissais ?
Non.
Moi ça m'a. Ça, été...
J'ai plein d'autres sentiments devant ce film, du coup j'étais pas trop attardé à ça.
Alors par contre, là où j'ai mal préparé, c'est que je ne sais plus combien d'histoires il y a au total. Je me demande s'il n'y en a pas 6 ou 7.
6,
hein. C'est 6 petites nouvelles qui sont inspirées de l'univers du Far West et du Western, et qui vont s'enchaîner entre chaque petite nouvelle. Je ne sais pas comment vous appelez ça au cinéma, les nouvelles.
Un conte ? Ça fait très conte avec le livre.
Oui, mais tu vois, moi j'ai plus pensé de nouvelles, mais oui, il y a cette idée de conte, mais du coup c'est assez littéraire, donc je sais pas comment le traduire
short
de manière...
Story.
Voilà, plein de petits courts-métrages. voilà, entre chaque court-métrage, on a un livre avec une image, et une image qui va prédire de l'histoire qui va arriver. Et pourquoi je suis assez mitigée sur ce film ? Je pense qu'il faut le regarder ne serait-ce que pour la beauté des paysages, puisque bien sûr, ils ont toujours une photographie absolument magnifique. Tu ne trouves pas, Théo ? Alors, je te sens faire... Je mériterai un ta gueule, c'est ça ?
Non, je ne suis pas aussi fasciste du cinéma, mais non, moi, j'étais dégoûté par ce film.
Ah ouais ?
Ouais, 100%.
Ah, carrément. Alors là, vraiment un refus total.
Rejet, une acceptation. Parce que en fait, ça m'a fait super mal de voir un film des frères Cohen qui ressemble à une vidéo YouTube pendant une heure et demie.
Ouh.
Et
je comprends.
Le problème, c'est qu'il a pris le format Netflix. Donc le format Netflix, on le connaît tous à peu près. C'est les séries Netflix. Genre, il y a quoi qui sortirait? Daredevil, les trucs de base, même Narcos, ça ressemble à ça. Encore Narcos, ça va, mais d'autres, où vraiment, on a l'impression que c'est tout filmé à l'appareil photo, en format 16:9 plein, donc sans les bandes au-dessus. Ce qui fait que vraiment, on a l'impression d'avoir une vidéo YouTube en plein écran, et où vraiment, t'as une. C'est les différences de premier et d'arrière-plan, où genre vraiment, t'as souvent un premier plan vraiment sur le personnage principal qui parle, et derrière, c'est tout flou, et. Justement, t'as pas. C'est ce qui est bien dans les frères Cohen, c'est genre. Y a plein de choses qui se passent en arrière-plan, des petits trucs que t'as pas remarqué, des petits trucs vraiment subtils, des essais sur le cinéma, etc. Et là, t'as rien, t'as juste. Basique. Et justement, je trouve la photographie vraiment appareil photo. On a l'impression de regarder une vidéo du studio Beagle pendant une heure et demie. C'est vraiment ridicule. L'humour est pas si drôle que ça, tellement il est exagéré. Il est pas très raffiné, et vraiment, c'est qualité YouTube studio, j'ai trouvé.
Alors moi, tu vois, au niveau de la photo, je trouve que, par exemple, dire que c'est du YouTube, c'est pas du tout un argument qui peut être contre, parce que tu peux faire... Il y a des très belles vidéos sur YouTube, et il y a des...
Ouais, mais on dirait
que c'est un format qui... Enfin, moi, au niveau de la photo, je suis toujours absolument... Bah, par exemple, notamment la fameuse histoire avec ce petit bonhomme qui raconte ce petit théâtre ambulant qui se balade avec ce petit mec, cet acteur qui est joué par Harry Milliam. J'ai trouvé que les images, elles sont juste, tu sais, elles sont sobres, sans, il y a pas trop, il y a juste, enfin pour moi, il y a juste ce qu'il faut dans la mise en scène et dans la photo. Pour moi, c'est sobre, c'est clean, il fait son job, c'est beau, on est content de le regarder. Après, moi, c'est plus sur les histoires en elles-mêmes et le scénario que je suis encore mitigée. J'ai réfléchi encore et non, mais c'est très marrant parce que j'ai vraiment des gens qui ont adoré dans mon entourage et des gens qui ont détesté. Donc c'est bien, c'est déjà qu'il fait parler de lui et qu'il a un intérêt. Mais je
voulais pas te déstabiliser en disant ça.
Tu m'as.
Non, mais en plus, j'étais très direct et c'est pas super argumenté non plus, mais ça m'a beaucoup dérangé, ça m'a vraiment empêché d'apprécier le film, cette constante impression d'être réduit à... un travail basique de... Enfin, vraiment, t'as pas l'impression que c'est filmé avec une caméra de cinéma, en fait, et t'as pas l'impression de voir un film de cinéma, t'as vraiment l'impression de voir une série Netflix d'une heure et demie,
mais en même temps, c'est sur Netflix.
Bien sûr, mais justement, j'étais un peu idiot de me faire surprendre par ça, hein, j'aurais dû m'y attendre carrément. C'est juste, ça commence à se développer, il va y avoir un Scorsese qui est sorti sur Netflix dans pas longtemps, et ça fait vraiment peur, quoi, parce que si c'est ça la fin de carrière des Cohen... Merde. Merde.
Mais non.
Après, sur les Cohen, je sais pas si t'as vu Ave César ou pas.
Non, j'ai pas vu Ave César.
Ça, bah, ça m'a fait
très mitigé là-dessus.
Il m'avait bien déçu aussi, franchement. Ah ouais, j'ai vu au cinéma, il m'a vraiment déçu.
Ouais, voilà. Moi, je sais que le dernier que j'ai vu, c'était j'ai revu No Country for All Men, et moi, j'avais ça dans la tête quand j'ai vu le dernier, et du coup, j'ai dit une comparaison qui était pas à faire du tout. Parce que...
Oui, ça m'a plus fait penser pour le coup à Ave César. Mais même au niveau de l'image, ce truc très, très clair. Avec des grands paysages. Moi, j'aime bien. C'est une esthétique que j'aime bien. Je trouve agréable à regarder.
C'est vraiment les goûts et les couleurs. J'ai appliqué des éléments extérieurs de ces YouTube, etc. Mais c'est mes goûts à moi. C'est pas non plus.
Et je comprends. Non, et je comprends totalement. Enfin, en repensant au film, je vois exactement pourquoi tu avances cet argument-là. Et je serais même plutôt d'accord avec cette idée-là. Et après, au niveau des petits scénarios, moi, j'ai trouvé ça un petit peu facile. Pas très réfléchi. Il y a quelques bonnes idées.
Il y a quelques bonnes blagues quand même. Hein, faut
il y a
dire,
quelques
bonnes blagues. Il faut le dire. Il y a des trucs très drôles quand même. Mais,
Et des super acteurs quand même.
Oui.
Disons-le, Tom Waits qui chante malheureusement.
Ça c'est super.
Mais
c'est super classe. C'est super classe Tom Waits dans son film. C'est toujours super classe.
C'est toujours super classe. Bon Théo, tu parles beaucoup.
Je suis désolé,
Il me semble que tu as beaucoup plus important à nous dire.
Waouh.
Puisque tu as préparé une super chronique sur...
Sur Cowboy. Voilà.
Eh bien vas-y.
On reste dans le thème des Cowboys. Super chronique, je sais pas, je tiens à préciser que je l'ai écrite, mais enfin Louise avait écrit sa chronique avant moi quand même, hein, donc on n'est pas si préparé que ça, mais on va essayer de faire un truc bien. Je vais commencer par le synopsis. Parce que c'est la procédure habituelle. Alors, Daniel Piron est un journaliste qui tire sur sa quarantaine, ou après, on s'est pas trop dit. Il a le sentiment d'avoir un peu dévié de ses ambitions de jeunesse. Lui qui était engagé, il souhaite retrouver ce sens à sa vie et il se lance dans la réalisation d'un film à la hauteur de ses ambitions de jeunesse. Donc c'est celle de l'histoire de... Enfin, je vais vous raconter l'histoire. Pardon. Et donc il y a 25 ans, Tony Sachi, un terroriste social, comme on aime à les appeler, prend un bus scolaire en otage et émet des fortes déclarations sur les inégalités donc, sociales au micro de la RTBF rapidement. Et après, il retourne dans le bus et il négocie avec la police de pouvoir s'exprimer vraiment à la RTBF et, en échange de la libération des otages. Et c'est à ce moment-là qu'il se fait interpeller. Ce qui fait que ça laisse un goût, une impression de manque à tous ces spectateurs qui ont été très intéressés par ce qu'il avait dit au début. Et ce qui lance un mouvement de libération, libérer Tony Sachi, libérez-le parce qu'il a tué personne, il a juste pris en otage, il a tiré sur personne, il a fait de mal à personne, et il a frappé personne dans le bus, etc. Juste il a fait des revendications sociales pour mettre en avant qu'il y a des gens qui crevaient la faim en Belgique à l'époque. Et ça a laissé un fort mouvement contestataire à l'époque, dont faisait partie Daniel Piron, le héros du film, et ça a été laissé à l'oubli. Et en fait, pour essayer de retrouver ces impressions de jeunesse et de fougue et d'engagement personnel, Daniel cherche à créer un film, et donc il va récupérer Tony Sachi à l'endroit où il en est actuellement, récupérer certains élèves dans le bus et le conducteur du bus et le fameux bus, et va créer une sorte de voyage initiatique vers la mer du Nord pour créer une cohésion et relancer un message à travers toute la Belgique. Et c'est un très gros projet, voilà, il veut filmer le tout. Alors c'est un film franco-belge réalisé par Benoît Mariage, sorti en 2007. Dans sa fiche, le film fait envie mais laisse une impression déjà vue quand même. Côté belge, on a Poelvoorde, prêt à reprendre du service après qu'il ait passé un peu de temps en France en 2007. Il commence à se faire une petite notoriété en France, il tournera dans Astérix à ce moment là et il retourne dans son pays d'origine pour retrouver ses acolytes, donc le fameux Bully Lanners qu'on voit souvent. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, il est tout le temps avec Poelvoorde, c'est un belge très connu, un humoriste vraiment, franchement tordant, alcoolique comme Poelvoorde notamment. Mais pareil, à côté de Poelvoorde, on n'est pas très surpris de le voir. Il y a aussi forcément François Damiens. Voilà, c'est un film belge, un peu bête mais sensible comme d'habitude François Damiens. Côté français, c'est avec Gilbert Melki qui joue dans La Vérité si je mens notamment, il faisait partie des nuls aussi des fois. C'est un mec qu'on a souvent vu sur Canal. Moi j'aime beaucoup, mais pareil, ça révolutionne rien. On est avec Julie Depardieu aussi, qui n'est pas une très grande actrice non plus, mais qui est connue par son nom, tout ça. Et ça fait quelque chose qui révolutionne pas le genre non plus.
Il est super, mon sperme.
Voilà, on a ce genre de blague un peu pas très développée, qui arrive souvent, mais qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de film. Et on se retrouve mélangé au milieu de ce grand n'importe quoi. Le scénario nous échappe parfois, mais ça reste quand même super charismatique. Ça nous touche toujours au moment où on s'y attend pas trop.
Vu sa très grande cérébralité et le peu d'expression instinctive, eh bien, il peut y avoir peut-être une difficulté pour monsieur à satisfaire les compensations sexuelles de madame.
Voilà, par exemple, cette scène-là, en fait, il débarque d'un coup, on ne sait pas trop comment, chez un conseiller conjugal avec sa femme, qui commence à consulter des gourous pour leur chat, etc. Et il tombe vers un mec qui, en fait, prend des grandes images d'eux-mêmes, de leur profil et leur portrait de face. Et il dessine des ronds dessus en disant « Oui, avec la taille de votre front, la plissure de vos yeux », il déduit des choses comme ça. Et en fait, des fois, ça tombe dessus, ça a l'air une scène débile. En fait, tu te rends compte qu'en fait, ils ont des problèmes ensemble dans leur couple, etc. Et là... Donc le long du film, Poelvoorde fait parler son talent d'improvisation en permanence et ça se sent, et ça fait plaisir.
N'insiste pas. Remarquez, je ne suis surpris qu'à moitié. C'était prévisible. Quand on a sa première Porsche à 18 ans, qu'on est élevé le cul dans le beurre toute son adolescence...
Sortez, monsieur.
Oui, monsieur, je sors, mais c'est pas vous qui me mettez dehors, c'est moi qui pars. Parce que ce bureau, il pue. Mais il pue le mépris de la classe ouvrière. Le dédain du malheur d'autrui. Ne me touchez pas. Fume, France.
Sortez.
Fume la barbarie du capitalisme.
Sortez.
Voilà, Poelvoorde, on adore quand il improvise, c'est toujours sympa. Malheureusement, ça lui rend peu service dans certaines scènes, très émouvantes, où finalement, on ne peut plus le saquer, parce que son personnage devient fou, hautain, insupportable au fil du film.
Tu l'as le moment où le banque file le mouchoir ?
Bah, je ponctuais mon plan. Je ponctuais mon plan, c'est le mot.
Tu ponctuais ton plan, putain, c'est la scène clé.
Bah, je suis souris Daniel.
Y'a le flic qui pardonne à l'otage complice et toi, tu ponctues ton plan avec une mouette. Non, t'es pas souris Daniel, tu fais ce que je te dis. Qu'est-ce que je te dis au début? Pas d'initiative.
Voilà, des fois il y a ce genre de scène où vraiment il devient fou et on essaie de s'accrocher au fait qu'il soit fou et garder un peu de pitié pour lui en fait, mais des fois il devient insupportable et c'est vraiment, on s'y perd notamment dans cette scène-là.
Excuse-moi, pour la première fois depuis que a commencé, il y a les otages qui...
Ah ouais. Qu'est-ce que tu trouves d'intéressant? Quoi? Des gens qui écoutent béatement un type qui joue du piano, c'est ça que tu trouves intéressant? Qu'est-ce que tu sais de leur individualité? Rien. Par contre, si tu les fous dans une tour, que tu les enfermes et que tu fous le feu, là, tu verras ce que c'est la nature humaine.
Et sinon, le reste du casting, il est assez bon sans être transcendant. Ça apporte toujours des bonnes ponctuations aux envolées de gêne, de colère, de détresse qu'apporte Poulvord. Au final, vu le caractère des sujets qu'il traite, le film semble très peu engagé. Et ça fait bizarre de voir un film traitant d'un sujet de fracture sociale sans être insistant dessus. Ça peut être assez utile pour aborder le sujet à quelqu'un qui n'est pas trop sensible à ces propos-là. Et c'est... vu que ça n'en parle pas beaucoup et que quand même ça aborde ce sujet. Mais du coup, ça laisse une impression un peu particulière où on ne sait pas trop où voulait en venir le réalisateur, mais qui donne quand même un film très agréable à regarder, avec notamment une scène finale absolument incroyable, et je vais vous laisser avec ça.
Je m'appelle Daniel Piron, je suis journaliste, j'ai pris une année sabbatique, j'ai toujours voulu chanter, et voilà, je suis là aujourd'hui.
Que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour, que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en être en ce soir de Noël. Mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Théo, j'étais prête à chanter, à me lever dans le studio.
Elle est vraiment trippante, cette scène finale.
Bon, mais, et du coup, à ne pas voir, à voir quand on s'ennuie ou à voir absolument?
À voir quand la liste de films de nos amis a été épuisée et qu'on galère à trouver. Il est très facile à trouver en streaming. Voilà,
d'accord,
si
très bien. Merci pour ce deuxième petit tips.
Mais payez votre cinéma, merde.
C'est vrai.
Bon, on se fait une petite pause musicale et détente avec aujourd'hui un choix de Corentin et XXXTentacion avec... Wow.
I was like, oh.
et c'était XXXTentacion avec Wow sur le troisième lieu. Alors on revient avec notre émission Jean-Luc et la meilleure partie, c'est-à-dire le jeu.
C'est un peu trop flatteur, ça. Tu mets beaucoup de pression là quand même.
Oui, mais c'est parce que là t'as décidé de faire un nouveau format et donc du coup un maximum de pression sur toi. Si ça ne marche pas, tu pars. Voilà, tout simplement. Donc nous t'écoutons, Corentin, explique-nous.
Ah, j'ai trouvé que le jeu des bandes annonces était encore un peu simple pour l'instant, du coup j'ai corsé un petit peu le truc. Donc je vais faire un peu la même chose, j'ai sélectionné des extraits, mais je vais vous les passer en allemand.
Ouh.
Et il va falloir me trouver
je
ça.
Je t'ai dit que je parlais couramment allemand.
Bah allez, tu me fais une petite phrase là comme ça.
I bin Lilia.
Pratique. Voilà, parfait.
Guten
Tag. Je suis donc bilingue. J'ai été quand même très très gentil sur les bandes annonces, je pense. Allez,
c'est parti.
Allez, let's go.
Ich hab dich gesucht. Dein Halbbruder ist im Begriff, der Oberwelt den Krieg zu erklären. Um diesen Krieg zu verhindern, musst du deinen rechtmäßigen Platz als König einnehmen.
Glaub mir, ich bin kein König.
Du denkst am besten, wenn du gar nicht denkst.
Als Aufmunterungsversuch. Völlig daneben.
Theo.
Ist Mortal Engines, ne?
Non.
Ah.
C'est pas les animaux fantastiques.
Non, c'est pas. Non.
Du tout.
C'est pas Spider-Man. Mêmes...
Non.
Non, c'est par les mêmes créateurs. Ils ont fait. Un... C'est par les créateurs de.
De.
J'ai peur de dire une bêtise.
C'est pas le studio de production du Seigneur des Anneaux.
Alors non, c'est Mortal Engines.
C'est Mortal Engines.
Non,
ça.
C'est
ce que
ah non, c'est Mortal Engines. Ah pardon, excuse-moi.
Ça sort d'ici la fin beaucoup. De l'année. Six, deux semaines, je crois, ou une semaine.
Bah, Aquaman.
Voilà.
C'est quoi
Aquaman.
Oh, oh.
Je me disais,
oh,
ça pétait dans tous les sens et tout.
Bon, en fait, je pensais que la musique type tous les Marvel qui existent au monde vous.
Ah, mais c'est pas Marvel, c'est DC.
C'est pareil, la musique elle est pareille. Non, mais je pensais un peu vous aiguiller avec ça, ça n'a apparemment pas aussi bien marché que ce que je pensais.
Bah, si je
mais
t'as
trouvé,
c'est
bien.
Ouais, moi aussi, je pensais à un truc qui allait exploser dans tous les sens et tout, du coup, c'est Mortal Engines.
Eh ben, attendez, du coup, j'ai rien pour marquer les points sous la main. Bon bah.
Vas-y, attends. Regarde.
Okay.
On a une feuille. Est-ce qu'on a un stylo pour Coca? Pour Coco. Coca. C'est ton nouveau.
Jules, pourrait-il nous donner un stylo?
J'en ai, regarde.
Tu peux ramener un stylo?
Un instant très radiophonique.
C'était Michel, notre assistant.
Troisième B.
Alors, Léa, Lilia, Théo, Louise. Et deux L, hop.
Corentin a réussi à faire un tableau Excel de très grande qualité en seulement 3 secondes.
Et sur papier, putain.
Et oui.
Les formules qui marchent toutes seules. On enchaîne avec. Du coup, je vais changer un peu l'ordre. Non, celui-là est trop dur. Bon, ben, hop, allons-y pour la deuxième. Buzzer vocal, hein, vous dites quand votre nom quand vous savez.
Tiens.
Est-ce que c'est Anne? Hey, Miss Potts. Wenn du diese Aufnahme findest, sei nicht traurig deswegen. Das Ende ist ein Teil des Weges. Nur mal so nebenbei, orientierungslos durchs Weltall treiben.
Si vraiment à la fin, vous trouvez pas, je vous donne un Nazis.
Lustiger als es klingt. Essen und Wasser sind vor 4 Tagen ausgegangen. Sauerstoff wird morgen früh verbraucht sein.
Ils ont l'air super concentrés. Hein.
Doch, ça se passe dans l'espace? Ils font des recherches un peu chelou?
Non. Alors je vous donne un indice, la bande-annonce est sortie cette semaine et le film sort pas avant l'année prochaine.
Mmh.
C'est vraiment un très très gros film.
Avengers.
Ouais.
Avengers 4.
Oh, ouais. Je suis trop
bien. La bande-annonce n'est pas si facile à identifier que ça, donc Cléa, 2 points. Parfait. Je vois le seum dans votre...
Ouais.
Putain, il a mal choisi ses bandes-annonces. Et encore. Alors.
On peut mettre Harry Potter et tout. Ce qu'on a vu et tout ça.
Allez, attends. Celui-là, vous pouvez trouver.
Er hätte mich auch getötet.
Théo?
Winnie.
Là, c'est Mortal Engines?
Oui.
Voilà. J'ai entendu le pont-levis qui tombe.
Ah ouais. Moi, je pensais que c'est genre le Hester qui allait vous faire trouver. Parce que genre, c'est vraiment du perso principal qu'ils ont guillé dans la bande-annonce.
Ah, d'accord, ok.
Et t'as trouvé sans le canon? Bien, ouais, tu as 10 points.
Mais j'ai pas lu Mortal Engines.
C'était. Je connais pas du tout.
C'était un livre, non, à la base?
Je sais pas.
C'est, je sais pas.
D'ailleurs, Théo, tu as découvert il n'y a pas longtemps que tu te sentais floué par ce film.
Ouais, voilà, je me suis retrouvé très frustré parce qu'il y avait marqué en gros que c'était par le les créateurs de Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Oui. Du coup, moi, je me suis dit « le créateur ».
Oui.
Et du coup, je me suis dit, bah, c'est Peter Jackson qui fait le film, donc c'est vraiment un super film, parce que Peter Jackson, il nous manque à tous et à toutes. Et, sauf que du coup, c'est pas Peter Jackson qui fait le film, donc j'irai pas le voir.
Non.
Je rigole. J'espère qu'il est bien.
Mmh, ouais, j'espère aussi. En vrai, j'irai voir.
J'espère que c'est pas dans la lignée du Hobbit.
Enfin, ouais.
Oh non, c'était quand même.
J'ai adoré le Hobbit.
Ah ouais, mais même vraiment. Le Seigneur des Anneaux, même, c'était pas ouf. Hein.
Quoi, non, bah alors ça.
Oh là là.
T'avais kiffé
le Hobbit.
Moi, j'ai le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, je garde tout.
Le Seigneur des Anneaux, je suis d'accord, mais le Hobbit, le 1, à la rigueur, mais après.
Ah, moi, j'avale tout, j'avale tous les yeux fermés. Non, comme de la nourriture. Mais. Ouais, non, mais j'ai adoré le Hobbit. J'étais super surpris de bien aimer le Hobbit, justement, j'ai trouvé que ça vachement.
Non,
justement, il y avait pas mal d'actions, c'était assez adulte pour un truc comme ça, j'ai trouvé. C'était cool.
Bref.
Je vais être un petit enfant.
Je crois que le deuxième, j'ai regardé 20 minutes et j'ai même pas regardé la suite.
Même, je me suis endormie.
En fait, le truc, c'est qu'il a adapté un bouquin de 300 pages en 3 films de 3 heures, quoi.
Et il a fait plein de changements en plus. Ouais.
Il a fait énormément de changements, ouais. C'est un des seuls bouquins que j'ai lu dans ma vie, donc que je le sais.
Ah, mais c'est peut-être ça aussi, le dégoût vis-à-vis
non,
du film.
Bah, en fait, le truc, c'est qu'en fait, tout le troisième film, normalement, il n'existe pas dans le bouquin. Parce qu'en fait, Bilbo le Hobbit, le fameux héros, il se fait assommer pendant la bataille des 5 armées à la fin.
Ouais.
Donc en fait, il y a 3 pages de baston, puis après il se fait assommer, puis il se réveille à la fin en fait. Donc t'as pas tout le détail. Donc tout c'est. Donc j'ai rien contre l'invention, mais il est parti des trucs. Il a pimpé le bouquin de ouf.
Mais elle est quand même super stylée là.
Non, et puis bah, vraiment, stylée, ça sent la machine Afrique.
Ouais,
non, si,
le dernier, il sent la machine Afrique. Quand même.
Ouais. Non, mais en fait, moi j'adore Peter Jackson, du coup, je suis vraiment pas objectif et vous avez sûrement plus raison.
Alors, par contre, ça donne des plans super classe, hein. Je suis d'accord avec toi que ça envoie du très très lourd.
Ouais, voilà, c'est... Non, mais après oui, non, je vais pas défendre. Ça vaut pas Transformers, quoi. Je
Parfait. Voilà. Celui-là, on part sur un film français qui est déjà sorti.
Et qui a été traduit en allemand ?
Doublé en allemand,
ouais. Alors qu'il y a au moins un trailer doublé en allemand.
Stylé.
Allons-y. Attends, ça marche pas.
Ein Taschendieb, der da mit der Maske. Gib Gas.
Jetzt darf ich mir. Kein Stress.
Das ist mein Sohn. Wir beide sind ein gutes Team.
Nicht so schnell. Jetzt chill doch mal. Keine Bewegung.
Kennen Sie Miami?
Nein.
Sie werden es lieben.
Ah. Le flic de Belleville.
Oui.
Ouais.
Rien que pour le doublage de Marcy en allemand, je voulais mettre ce film.
Ouais,
j'ai connu Miami et des bruits de gun.
Ouais, c'est ça. Ouais. Le dernier, j'aimerais vraiment que vous le trouviez parce que c'est un film sur lequel j'attendais beaucoup. J'étais un petit peu déçu au final, mais c'était un très bon film. Il est sorti il y a un moment déjà et il n'a pas été distribué à la hauteur de l'attente qu'il y a eu pour ce film. Je vous en dis déjà beaucoup. C'est un réalisateur très connu qui n'a rien sorti depuis longtemps. Et. On y va.
Peter Erasmus, el Tima, el bandido.
Lauft, ihr seid sicher bei meinem. Il y a d'espagnol.
C'est un dessin animé, non?
Du pas Michel Oslo.
Non.
Non.
Javier.
Il est très très dur celui-là.
Et c'est un dessin animé ?
Non,
non, non, mais on dirait. Ça fait très. Javier.
Perfekt. Qui rote vive? Qui rote vive?
Ah, donc aucun de vous l'aura eu celui-là.
Non.
Il est chaud. Hein. Eh ben, c'était L'homme qui tua Don Quichotte.
Ah,
de
mais
Terry
bien
Gilliam.
Sûr, mais.
Putain, c'est cool.
Mais en plus, tu sais à quoi j'ai pensé ?
Non.
J'ai pensé, c'est bien le film à la base qui doit être avec Jean Rochefort.
Oui. Ouais.
L'alcoolique, là. Je sais plus. mais oui, mais j'ai pensé à j'ai pensé à ça parce que je me suis dit bon, un peu cartoonesque comme ça avec des épées et tout, et j'avais pas le nom. Donc Vous ne pouvez croire qu'en ma bonne parole, mais tu peux mettre. Enfin, je l'ai vraiment pensé, tu peux mettre un demi-point par exemple.
Bon, allez, je te mets un demi-point parce que de toute façon ça change rien sur le truc. Non, c'est con parce qu'il était pas mauvais et je pensais qu'avec les. Enfin, de l'espagnol dans la bande-annonce, le bruit des cap et d'épée à la fin, le Quijote Fif.
Et du coup, tu l'as vu toi ce film?
Ouais, je l'ai vu. J'attendais vraiment beaucoup.
Mais plein de gens l'attendaient et tout le monde a été déçu. Genre,
ouais, bah en fait, ça fait 10 ans qu'il y a du truc en mode ça va être le film de ma vie et tout ça. Et c'est con parce que en fait. Il part vraiment dans un délire très très fucké en fait. Mmh. Et c'est assumé, hein, mais du coup, il te perd souvent le film. Et il y en a qui attendaient un truc encore plus personnel pour Terry Gilliam. Moi, je m'attendais juste. Enfin, je m'attendais pas à un truc aussi expérimental, si on peut dire ça comme ça.
Mais du coup,
ils ont eu un maximum de soucis avec le premier tournage aussi.
C'était le film sur le tournage ou c'était où c'est vraiment il recommençait le tournage en fait. Parce que je pensais qu'en fait ils avaient fait un film sur le tournage qui n'avait pas pu se finir, etc.
Non, en fait c'est une fiction sur un film qui a été tourné par un groupe d'étudiants d'une école aux États-Unis il y a 20 ans. Et en gros, en fait, 20 ans après, le mec, par hasard, il retombe sur les lieux. Et le mec qui avait joué Don Quichotte dans le film, il est toujours. En fait, il est devenu taré. Et il se prend toujours pour Don Quichotte 20 ans après, en fait.
Ok.
Et c'est de là que part le film. Et c'est qu'en fait, il le chope de force en mode tu vas devenir mon Sancho, mon écuyer. Et il est obligé de le suivre pendant tout le film. Et on peut pas spoiler la fin, mais ouais.
Ok.
C'est fucké.
Mais lui, pour le coup, ce film-là, il a eu du mal à le faire. Enfin, ça a été
Il a eu énormément de mal. Bah, des problèmes de droit déjà. Il y a des conflits avec les producteurs aussi. Donc,
Et puis la mort d'un acteur
sur
le trajet.
C'est un peu le Dune des temps modernes.
Ouais. Voilà, ouais.
Okay.
J'ai réussi à le faire du coup, mais.
Ouais, c'est vrai.
Mais de manière moyenne.
Et ben voilà, du coup, il y a 2 points
beaucoup.
Pour Cléa. Non, attends, 2 points pour Cléa, 2 points pour Théo. Donc on va faire un Shifumi pour départager.
Un Shifumi radiophonique.
Ouais, exactement.
Pour le gagnant.
Non, mais on va faire un pile ou face. Pour savoir pour le gagnant.
C'est tout aussi radiophonique. Merci.
Je l'ai pas.
Moi j'aime bien les Shifumi, un petit côté bataille, challenge, round one et
on
tout.
On dit pierre feuille ou ciseaux à 3.
Non, en fait vous le faites normal et on va le commenter en mode c'est le joueur français.
En combien de points?
Il y a pas de puits, le puits est proscrit pendant cette compétition en 1 point.
Best of 3, ah non. OK,
en 3, non, en 1 point.
Lilia a choisi mort subite.
J'ai choisi mort subite carrément.
Alors Lilia se prépare, elle n'est pas si bonne que ça face au champion national Théo et sa moustache très bien préparée.
On se souvient d'une dernier match de Théo gagné sur un ciseau face à une pierre. On va voir s'il va réussir à garder son titre en jeu. Pierre, feuille, ciseau. Et c'est 2 ciseaux, mon Dieu, c'est égalité. Nous sommes obligés de recommencer. Pierre, feuille, ciseau. Et
c'est une victoire de Théo.
Mais pas du tout, mais j'ai vraiment un commentateur et un collègue qui n'y connaît rien. Un ciseau face à une pierre. Ah, mais carrément, mais c'est j'ai vraiment un commentateur qui n'y connaît rien. C'est une victoire de Théo. Tout à fait. Puisque, bien sûr, le ciseau se casse.
Donc, Théo, tu as un point de plus pour la PS4 de la fin de l'année.
J'ai gagné la PS4. Non, j'ai pas gagné la PS4.
Non, c'est à la fin de l'année quand même. Je peux pas en offrir une par semaine. Déjà que c'est la mienne. Donc,
Non, je voulais genre rester. Il fallait me le dire dès le début de l'année. Je serais venu tout le temps.
Il est venu juste pour ça en fait. Non, mais t'es déjà bien. Hein. Il y a eu 3 émissions, donc t'es déjà bien pour le classement. Là.
Ok. Et si tu veux, si on en fait une maintenant. Hein.
Bon. Et bien, sur ce, on va rendre l'antenne.
Oui.
Rendons l'antenne. C'est la fin de l'émission. Et bien, merci à tous d'avoir écouté et d'être restés jusqu'à la fin.
Mm-hmm.
Et à bientôt sur le 3e lieu. Au revoir.
Au revoir.
Bisous. Au revoir.